Ce matin, on poursuit notre série dans le livre d'Exode. Dimanche dernier, on est revenu à cette série. Et simplement pour se remettre un petit peu en contexte, à travers le livre d'Exode, on voit ce moment où Dieu libère son peuple de l'esclavage en Égypte. Et ça va être l'occasion pour Israël d'entrer dans une relation intime, profonde avec Dieu, dans une alliance avec Dieu. Israël doit apprendre à connaître Dieu véritablement. Et pour nous, il y a plein de leçons super précieuses pour nous-mêmes, aller rencontrer Dieu quotidiennement, tous les jours, le connaître de plus en plus. Dans le passage qu'on va voir ensemble ce matin, on va survoler deux épisodes, deux événements, les eaux de Mériba, où Israël doit apprendre encore une fois à exercer sa foi à tous les jours, dépendre de Dieu. Et le premier combat qu'Israël va livrer contre un autre peuple. Israël, vous devez savoir, ce n'est pas un peuple guerrier. Ça n'a jamais été vraiment un peuple guerrier parce que Dieu ne voulait pas que ce le soit. Et donc, ils n'ont pas d'armée, puis en fait, ils n'ont tellement pas d'armée qu'ils viennent de sortir de l'esclavage en Égypte. Donc, on peut imaginer qu'il y avait quelques couteaux à steak, peut-être, mais ils n'étaient pas armés, vous comprenez, c'est des esclaves qui quittent. Donc, il y avait très peu d'armes et Dieu veut leur enseigner que c'est lui qui va livrer tous leurs combats. Et si ça, ce n'est pas une leçon précieuse pour notre foi à nous, que c'est Dieu qui livre tous nos combats, on n'en a pas de leçon à apprendre, n'est-ce pas? C'est une leçon hyper précieuse pour notre foi. On va aller voir ce que Dieu veut appliquer dans nos vies ce matin, comment est-ce qu'il veut nous mettre au défi de grandir ensemble dans la foi. On va prier, puis on va écouter la lecture des Saintes Écritures. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence ce matin, à travers la louange, à travers la communion fraternelle, en se retrouvant en Église. Seigneur, on vient dans ta présence. On vient dans ta présence, Seigneur, pour entendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, nous croyons que la Bible est plus qu'un simple livre. C'est un livre que tu as inspiré. Et nous croyons, Seigneur, non seulement que tu l'as inspiré il y a de ça des milliers d'années, mais qu'aujourd'hui, ton esprit est toujours vivant. Ton esprit est toujours présent pour rendre cette parole vivante dans notre âme, dans notre cœur, Seigneur. Ce matin, on veut te demander de venir nous rencontrer personnellement, individuellement, là où nous sommes, que ce que le peuple d'Israël a vécu vienne s'appliquer dans nos vies, dans nos cœurs. Et je veux te prier, Seigneur, si quelques-uns parmi nous ce matin ne te connaissent pas intimement, viens te faire connaître à eux. Et Seigneur, que ce qu'ils vont recevoir ce matin vienne s'appliquer dans leur vie. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen.
Alors, on poursuit la lecture dans Exode. On est rendu au chapitre 17, les versets 1 à 16, dans la nouvelle édition de Genève. Exode 17, versets 1 à 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse vit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? » Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel, ma bannière ». Il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. »
Qui ici conduit une voiture? Oui? Ou a déjà conduit une voiture, on va le dire comme ça. OK? OK, là, je vais en mettre quelques-uns à l'aise. Qui est en train d'apprendre à conduire une voiture? Nice, super. C'est pas évident. Moi, c'est une des expériences physiques les plus fascinantes que j'ai vécues. Les premières fois que tu commences à apprendre, à conduire, c'est assez... pour moi, c'était très intimidant parce que tu as conscience que ce truc-là, je veux dire, ça pourrait te tuer, on s'entend. C'est une machine qui pourrait faire beaucoup de dégâts, beaucoup de dommages, qui coûte cher en elle-même. Puis là, tu embarques là-dedans, puis tu as un paquet de réflexes à développer. C'est contre-intuitif. Tu dois comme coordonner physiquement, tu dois coordonner tes mouvements avec tes yeux, mais tu dois conduire pour les autres. Puis à force de pratique, ça devient littéralement, pour la majorité d'entre nous, une seconde nature. On s'entend, des fois, tu roules sur la route, puis tu dis, non, cette personne-là ne devrait pas conduire, devrait rester chez lui, ça serait plus sécuritaire pour tout le monde. Mais pour la majorité d'entre nous, ça devient littéralement une seconde nature. C'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui avec toutes les bébelles qu'on a. Ça peut être très, très distrayant. Mais moi, j'ai appris à conduire lorsqu'on conduisait en plus manuel. Il y a un moment où, tu sais, avec le cellulaire, puis en plus de ça, tu avais un écouteur dans l'oreille, un fil de bras de vitesse. J'ai dit, OK, on va passer à l'automatique. Mais ça devient vraiment une seconde nature. C'est comme tu réfléchis plus, tu es synchro avec ta voiture, tu es synchro avec ton environnement. C'est fascinant. Puis si on se basait sur la première fois qu'on essaie ça, tu te dis, je vais tuer quelqu'un, c'est certain. Ou je vais me tuer, il y a quelque chose qui va mal tourner, tu sais. Mais ça peut devenir une seconde nature. La foi s'est appelée à devenir une seconde nature pour nous. Et selon moi, l'expérience quotidienne de la foi, c'est aussi contre-intuitif que d'apprendre à conduire une voiture. Ce qui est beau avec la foi, c'est que je ne pratique pas seulement quand j'embarque dans ma voiture. J'ai besoin de la foi quand j'embarque dans ma voiture, n'est-ce pas? J'ai besoin de la foi que ça va bien se passer pour moi et pour tout le monde autour. Mais la foi, elle, je suis toujours embarqué dedans. Et je peux exercer ma foi à chaque instant. Et lorsqu'on rencontre Israël ici, c'est un peu ça qu'ils sont en train d'apprendre. On a dit la semaine dernière qu'ils doivent apprendre à faire confiance à Dieu. Et on va voir ce matin que ça va un petit peu plus loin que ça. Il y a une question de cœur, il y a une question d'attitude aussi. Grandir dans la foi au quotidien, nourrir ta foi au quotidien, demande une belle disposition de cœur aussi. Et c'est peut-être ça qui est problématique chez Israël. Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. Viens nourrir ta foi tous les jours à l'œuvre de Jésus-Christ, afin de garder ton cœur et d'être inspirant. Je répète ça. Viens nourrir ta foi tous les jours à l'œuvre de Jésus-Christ, afin de garder ton cœur et être inspirant. Et vous allez voir le lien avec Christ lorsqu'on va arriver vraiment vers la fin du passage. Premièrement, manque de foi ou ingratitude. Alors, je vous relis 17, verset 1. « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. » Juste pour se remettre en contexte, Dieu nourrissait son peuple tous les jours. D'accord? À l'endroit où on est rendu dans le récit, Dieu leur donne la manne tous les jours. Dieu leur envoie des cailles. Dieu les nourrit. On peut rapidement le perdre de vue. Donc, tous les jours, Dieu prend soin d'eux, il les nourrit. Maintenant aussi, Dieu les conduit à des endroits où ils vont vivre des épreuves. Leur foi va être mise à l'épreuve. Ils avancèrent selon ce que Dieu avait ordonné, c'est ce qu'il nous est dit. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Dieu les conduit même à travers la nuée, jour et nuit. Donc, Dieu intentionnellement les amène à des endroits où leur foi va être éprouvée, où leur attitude va être mise à l'épreuve, où les bonnes dispositions de leur cœur vont être testées. Parce qu'Israël doit apprendre à connaître Dieu. C'est Dieu qui les conduit par la nuée. C'est Dieu qui les conduit dans des endroits difficiles. Leur mission chaque matin lorsqu'ils se lèvent, c'est d'apprendre à connaître Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Dieu pourvoit, Dieu prend soin. Chaque matin lorsqu'ils se lèvent, leur mission principale dans la journée, c'est apprendre à connaître ce Dieu qui prend soin de moi. Et je pense que ça, c'est notre mission tous les jours. Dans la prière du 24-7, ceux qui prient avec nous pour un réveil au Québec. La première, c'est « Seigneur, enseigne à tes enfants à débuter la journée avec humilité. » Et l'expression ultime de cette humilité, c'est de commencer la journée dans la prière. Que le premier mot qui sort de ta bouche soit « Seigneur ». Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui. C'est toi qui as créé ce jour. C'est toi qui connais les joies, les peines, les succès, les échecs qui m'attendent. Seigneur. Et donc, leur mission à tous les jours, c'est d'apprendre à connaître Dieu intimement pour qui il est. Dans sa fidélité, dans sa bonté, il est le Dieu qui pourvoit. Et c'est ma mission et c'est la tienne à tous les jours. Apprendre à connaître Dieu, à connaître Jésus-Christ, afin que ta foi et la mienne deviennent une seconde nature, un réflexe aussi automatique que lorsque tu embarques dans ta voiture, tu démarres la voiture, tu commences à rouler sur la route, tu regardes en arrière, rétroviseur, les côtés, tout est cadencé parfaitement, Dieu voulant. Hein? C'est notre mission à tous les jours, c'est ta mission à tous les jours, si tu es chrétien. C'est ta mission à tous les jours. Mais ce n'est pas juste une question de « est-ce que c'est difficile de croire? Est-ce que c'est difficile d'avoir la foi? » Je veux dire, je l'ai mentionné, ils reçoivent la manne à tous les jours. C'est comme difficile de douter de Dieu quand Dieu te donne la manne à tous les jours. Moi, ce que j'entends dans les critiques, dans le chialage, comme on dit au Québec, hein? Murmurer, là, que vous lisez dans le texte, en québécois, ça se traduit par chialer. Ils s'en prennent à Dieu. Et moi, ce que j'entends, c'est quelque chose comme, en fin de compte, Dieu. Tu sais, tu arrives dans la cuisine, il y a quelqu'un qui est en train de préparer le souper, travaille fort, c'est un petit peu plus long que d'habitude, la personne est en train de travailler, tu rentres dans la cuisine, tu dis, on va-tu souper à soir? Pardon? Regarde, j'arrête ça là, tu prends ça en main, mon grand. Ou tu t'en vas, tu sais, chez nous, on habite tout près du parc Michel-Chartrand. Alors, chaque fois qu'il y a des courses à pied, tu sais, des grandes courses à pied, c'est autour de ce coin-là. Puis j'imagine que je m'installe un matin, tu sais, puis je les regarde courir, puis je dis, on va-tu réussir à courir ce matin? Pendant que j'en vois un, tu sais, qui ralentit, puis il commence à marcher. On va-tu faire une course ce matin? Ça ressemble plus à ça. Parce qu'ils s'en prennent à Dieu alors que Dieu les nourrit tous les jours. Puis il dit, c'est quoi la joke? Tu nous as conduits ici pour mourir? c'est plus de l'ingratitude. C'est plus du genre, je les aurais pris brouiller mes œufs ce matin, puis tu me les as servis miroir. Ça ressemble plus à ça, parce que Dieu fait des miracles à tous les jours. Donc, ce qu'ils doivent apprendre à faire, c'est nourrir leur foi d'une attitude d'action de grâce. Que lorsqu'il y a un pépin qui se présente, je veux dire honnêtement, quand Dieu, tu sais, te sert tes œufs tous les matins, bon, c'était des cailles, puis c'était de la manne, mais Dieu te sert ça tous les jours, puis là, il manque un peu d'eau, tu dis, « Seigneur, est-ce qu'on pourrait avoir de l'eau avec ça, s'il te plaît? Je prendrai un petit espresso en plus. » Mais pas, en fin de compte, « Dieu, je pense que tu nous as conduits ici pour mourir. » Laissez-moi être direct avec vous. Lorsque, au quotidien, je ne parle pas des grandes épreuves de la vie, là. Je parle du quotidien qui amène son lot d'épreuves. Cette semaine, quelle a été votre plus grande épreuve cette semaine, à part ceux qui ont eu comme la grande épreuve de l'année, d'accord? Il y en a quelques-uns ici, vous êtes dans la souffrance. Cette semaine, vous avez appris la pire nouvelle de l'année. Vous êtes en train de digérer ça. Ceci n'est pas pour vous, s'il vous plaît, d'accord? Je parle de tous les autres. Ça a été quoi vos épreuves difficiles cette semaine? Sans mépris, parce qu'une épreuve, c'est une épreuve. Parfois, il m'arrive de jaser avec des frères et sœurs, puis d'autres, des fois, me le servent à moi aussi. Puis c'est bien, j'ai besoin qu'on me le rappelle. On arrive devant une épreuve, puis là, on est comme, je manque de foi. J'ai de la difficulté à croire. Et il m'est arrivé souvent de parler avec un frère, parler avec une sœur, puis de dire, est-ce que tu manques vraiment de foi, tu crois, dans cette situation-là? Ah oui, je lutte, j'ai de la difficulté à faire confiance à Dieu. OK. Est-ce que Dieu t'a fait connaître sa bonté pour toi? Est-ce que par hasard, Dieu aurait posé un geste incomparable, tu sais, qu'aucun autre être humain aurait fait pour toi? Comme donner son fils, peut-être, tu sais? Oui. Est-ce que ça, c'est clair dans ton esprit? Est-ce qu'en ce moment, tu as une foi très ferme en Jésus-Christ pour ton éternité? Et là, je ne sais pas combien de fois je me fais servir. Oui, mais ce n'est pas de ça que je te parle. Ce n'est pas de ça que je te parle d'ici maintenant. Voyez-vous, c'est intéressant. Je suis convaincu que Dieu le Père a donné son Fils, Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus conséquent que mon éternité? Et ça, j'ai la foi. Mais j'arrive dans mon quotidien, puis là, j'ai l'impression que je vis un grand combat de la foi. Je vous soumets, je vous propose qu'on examine nos cœurs pour voir si, est-ce que c'est autant de l'incrédulité que de l'ingratitude? Une difficulté à aller dans la prière puis dire, « Seigneur, tu permets des choses qui me déplaisent. Je connais ta souveraineté, je connais ta bonté. Mon cœur n'est pas bien disposé. J'ai le goût de me mettre à chialer. » Et la semaine dernière, je vous disais, hein, quand vous entendez ça dans votre âme, quand vous entendez des murmures, la critique du chialage qui veut monter, ne le faites pas taire trop vite. Dites, « Bah, Non. Il faut que je l'entende. Si je veux que ça se transforme en prière, il hein, faut que j'aille gérer ça là, avec Dieu. Là. Voyez-vous, Israël commençait vraiment à connaître Dieu. En fait, Dieu faisait des miracles tous les jours. Et donc, si on avait dit à Israël, « OK, sérieusement, est-ce que Dieu est vivant? » Je pense qu'ils auraient dit oui. « Est-ce que Dieu s'est manifesté à toi aujourd'hui? » Je pense qu'ils auraient dit oui. Et pourtant, ils sont en train de sortir le violon et dire, « On va-tu souper à soir? » Non, mais y a-tu quelqu'un qui va me servir à souper pendant que Dieu est en train de préparer le repas? On a besoin d'apprendre à nourrir notre foi quotidiennement face aux épreuves de la vie, les difficultés de la vie. Et parfois, c'est vrai, notre grande difficulté, c'est de croire en Dieu. Souvent, ce n'est pas ça, c'est une question d'attitude. Certains d'entre vous, vous vous dites, « Je ne sais même pas si Dieu existe. » T'es né dans un foyer chrétien, puis là, tes parents sont toujours là, puis ils disent, « Non, mais fais confiance à Dieu. » »« Oui, mais je ne sais même pas s'il existe. » C'est légitime comme question. Voyez-vous, ça, c'est autre chose. Si tu es en train de... La semaine dernière, je disais, celui qui met Dieu à l'épreuve, écoute, si tu doutes de l'existence de Dieu tous les jours de ta vie, mets-le à l'épreuve. Fais-le. Mais si, comme moi, profondément dans ton âme, la question de ton éternité est réglée à cause de Jésus-Christ, ne mets pas Dieu à l'épreuve comme ça. Non, écoute plutôt l'amertume qui veut s'installer dans ton cœur, le murmure, le chialage. Puis va dans la prière et dis, « Seigneur, regarde mon ingratitude. Tu as pourvu hier, tu vas pourvoir demain, tu vas pourvoir aujourd'hui, Seigneur. » Et sans gêne aucune, fais connaître tes besoins à Dieu. Parce que le problème est tout là. Hein? Si seulement Israël avait dit, « Seigneur, un peu d'eau pour avaler la manne, ça passerait mieux. Est-ce que tu aurais de l'eau aussi? » Ça aurait été complètement un autre scénario. Le problème n'est pas ça, c'est qu'ils s'en prennent à Dieu et à Moïse. Leur problème, c'est un problème d'attitude, c'est un problème d'ingratitude. Tes combats de la foi au quotidien, à la petite semaine, est-ce que c'est une question d'ingratitude ou si c'est vraiment que tu doutes de la puissance et de la fidélité de Dieu? Ou est-ce que ce serait simplement que tu es en train de dire, « Je ne doute pas de sa puissance, je ne doute pas de sa fidélité, mais je n'aime pas le chemin par lequel il veut me faire passer. » À ce moment-là, c'est ça que tu dois exprimer à Dieu. « Seigneur, le chemin par lequel tu veux me faire passer, j'aimerais que tu me fasses emprunter une autre route. Si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, Seigneur. » Là, je m'en vais mener le bon combat, le combat que Christ lui-même a dû mener. Et voyez-vous, Dieu veut leur enseigner qu'il est fidèle, qu'il prend soin d'eux. Il va le faire avec Amalek. Il y a un peuple qui est là, qui est un peuple guerrier. Ils étaient réputés pour leur mobilité. Ils se déplaçaient pour leur combat à chameau. Je sais que dans notre tête, un chameau, c'est quelque chose qui n'avance pas vite. D'accord? Ça avance beaucoup plus vite que toi et moi, beaucoup plus longtemps que toi et moi. Puis au combat, tu ne veux pas faire face à un chameau. Et Israël sort de l'esclavage. Comme je vous dis, ils ont peut-être un petit canif suisse pour préparer leur steak le soir. Fait que Dieu dit à Moïse, « Trouve ceux qui ont les plus gros canifs, puis préparez-vous, il faut aller se battre contre Amalek. » Puis en fait, lorsqu'on va plus loin dans les Écritures, on découvre dans Deutéronome 20 des instructions très claires pour qu'Israël n'ait pas une armée de professionnels. Littéralement, Dieu ne veut pas que le peuple d'Israël soit un peuple guerrier. Ils vont aller faire la conquête du territoire que Dieu leur donne et ça s'arrête là. Ils vont protéger le territoire si le territoire est attaqué et ça s'arrête là. Ils ne sont pas appelés à avoir une armée professionnelle. Pourquoi cela? Parce que Dieu veut leur apprendre que c'est lui qui livre le combat. C'est lui qui livre le combat pour eux. Et c'est ça que Dieu veut nous apprendre, intégrer comme une seconde nature, comme un réflexe. C'est toi, Éternel, qui livre les combats pour moi. Mon rôle à moi, c'est de faire confiance, de croire en toi. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Moïse était là avec le bâton avec lequel il avait frappé la mer, avec lequel il avait frappé le rocher. Et c'est là simplement pour illustrer tant et aussi longtemps que Dieu est au-dessus de vous, que Dieu veille sur vous, la victoire vous est assurée. Vous avez beau avoir juste des canifs suisses, faites-vous-en pas, les amis. La victoire, c'est moi qui la donne. Amen? Et c'est tellement difficile à apprendre. C'est tellement difficile à intégrer comme réflexe que ça devienne une seconde nature comme celle de conduire une voiture. C'est Dieu qui livre les batailles à ma place. Remettre à Dieu chacune de nos victoires dans l'attente de la prochaine opportunité d'exercer la foi. Voilà ce que nous devons apprendre des combats d'Israël. Je vais donner le meilleur de moi-même chaque jour, confiant que Dieu est plus que suffisant pour pourvoir à tout ce qui manque à mes capacités. Dieu est plus que suffisant. Et ce qui est particulier dans ce passage-là, c'est que ce n'est pas seulement le peuple qui va pécher, Moïse aussi va pécher. Cet épisode-là dans la vie, dans le leadership de Moïse, est rapporté à plein de reprises ailleurs dans la Bible. Et ce que Moïse exprime ici, lorsqu'il dit au verset 4, Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront! » Moïse va être sévèrement repris plus tard dans sa vie pour son attitude. Parce qu'à ce moment-là, il a pris peur devant le peuple et peut-être aurait-il eu la foi pour l'épreuve que le peuple devait affronter, mais il n'avait pas la foi pour l'épreuve que lui devrait affronter comme leader. Moïse a quitté cette posture-là de foi où ce qu'il aurait dû faire, c'est dire « Ne péchez pas contre l'Éternel. Ne péchez pas, Dieu est fidèle, il est en train de vous enseigner. Je vais aller intercéder et Dieu va pourvoir. » Puis je veux dire, écoutez, humainement, ça se comprend. Tu as un peuple. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus imbécile et dangereux qu'une foule? Sérieusement, est-ce qu'il y a quelque chose de plus dangereux et insensé qu'une foule qui commence à paniquer? On l'a vu de manière cruellement mortelle en Corée, il n'y a pas longtemps. Moïse est devant ce peuple-là, insensé comme ce n'est pas possible, et il prend peur. C'est légitime humainement. Je veux dire, pour de vrai, ils auraient pu le lapider, là. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Humainement. Et donc, il prend panique, il s'en va devant Dieu, puis il dit, « Seigneur, ils vont me lapider, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut qu'il y ait de quoi qui se passe. » Et Moïse quitte sa posture de leader, d'homme de foi, de modèle, pour ramener ça à lui-même. Il ramène ça à lui-même. En québécois, là, c'est « arrête de ramener tout ça à toi ». J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, ce n'est pas seulement applicable pour les pasteurs ou, je ne sais pas, ceux qui sont des dirigeants spirituels. C'est sûr, je vous avoue, n'importe quel pasteur qui lit ça, pense à lui-même. Puis après quelques années dans le ministère, tu te dis, il y a tellement de fois où il y a des choses qui ne vont pas bien. Puis là, tu paniques. Puis là, tu penses juste à toi, dans le fond. C'est qu'est-ce qui va arriver avec mon leadership, Seigneur? Le Seigneur te reprend. Ramène pas ça à toi, mon ami. Sers mon peuple. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Et Moïse pêche ici. Dans Nombre 27, versets 13-14, on lit, alors qu'il est en train de parler d'Aaron, puis Dieu parle à Moïse d'Aaron, il va parler de lui-même, « Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli, parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. » Ce sont les eaux de contestation. Et donc, Moïse a pris panique. Il aurait dû sanctifier Dieu, c'est-à-dire présenter Dieu dans toute sa majesté au peuple d'Israël et dire, « Attention, ne péchez pas. » Attention, n'allez pas plus loin, Dieu est fidèle. Est-ce que vous n'avez rien appris? Mais au lieu de cela, Aaron et Moïse ont pris panique. Ils auraient pu avoir la foi pour le peuple, ils ne l'ont pas eu et ils n'avaient plus la foi pour eux-mêmes dans leur rôle. Voyez-vous, dans le Nouveau Testament, l'idée que celui qui est en Jésus-Christ, celui qui est chrétien, est appelé à être un modèle, revient constamment. 1 Corinthiens 11:1 « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Paul va dire à son protégé Timothée, dans 1 Timothée 4:12, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. » Quel que soit votre rôle, que vous soyez pasteur, ancien, diacre, époux, épouse, parent, collègue de travail, un responsable jeunesse, responsable dans un ministère, ou simplement un chrétien parmi des chrétiens moins matures. Nous sommes appelés à être des modèles. Et il arrive qu'on prend à cœur des gens, on veut aider des gens à grandir. Tu es en train d'aider quelqu'un qui est jeune dans sa foi à découvrir l'Évangile. Puis là, cette personne-là est éprouvée. Et au lieu de demeurer un modèle, je ramène ça à moi-même. Et les parents ont fait ça avec nos enfants. Il y a un temps où on prend soin de nos enfants, puis là, si on sent qu'on perd le contrôle, qu'on n'y arrivera pas, que ça va peut-être... Finalement, ils vont peut-être virer tout croche. Là, on ramène ça à nous-mêmes. Je ne suis plus nécessairement en train d'intercéder pour mes enfants. J'entre dans une complainte à Dieu. Pauvre de petit moi qui est pris avec ces enfants-là qui font de mauvais choix. On fait ça au travail avec des collègues de travail, avec une équipe. On fait ça dans des ministères. On fait ça dans notre relation de couple. Ton conjoint, ta conjointe est en train d'apprendre quelque chose. Dieu est en train de la confronter. Dieu est en train de l'éprouver. Puis c'est long, puis c'est souffrant pour toi aussi. Peut-être même que cette personne-là s'en prend à toi parfois. Et plutôt que d'être en train de prendre soin de sa foi, tu ramènes ça à toi-même, puis tu deviens la victime. Humainement, ça se comprend. Moïse est victime d'un peuple insensé. Mais Moïse a reçu un appel, celui de représenter Dieu. Et si tu es chrétien, si tu es chrétienne, tu as reçu le même appel que Moïse. C'est tellement une erreur incroyable pour les chrétiens de regarder à Moïse et de dire « OK, ça c'est un modèle pour les pasteurs. » Écoute, tu n'as pas compris le Nouveau Testament? Je veux dire, on n'est plus dans une église quelconque où le prêtre recevait le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est d'accord? Nous sommes une armée de prêtres, tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne suis pas Moïse, Dieu merci. Dieu merci. Et vous êtes tous Moïse là où vous êtes. Et lorsque Dieu éprouve des gens autour de vous, et qu'ils se tournent vers vous ou qu'ils se tournent contre vous, à cause de votre foi, à cause des réponses que vous avez apportées, parce qu'eux autres doutent, puis là, vous vous projetez là-dedans, puis vous dites, oui, mais leur échec, c'est mon échec. Ramène pas ça à toi. Sois ferme. Sois ferme sur le roc de ta foi. Et comprends l'épreuve que cette personne est en train de traverser. Que tes enfants sont en train de traverser parce qu'ils n'ont pas encore choisi de suivre Christ, parce qu'ils se sont mis les pieds dans les plats. Et sois un modèle. Moïse a péché parce qu'il a ramené ça à lui-même. Au lieu d'être le modèle qu'il devait être pour Israël, il a ajouté au péché d'Israël son propre péché. Et c'est tellement difficile pour nous de ne pas faire ça lorsque les gens s'en prennent à nous alors qu'on a essayé de les aider. Certains chrétiens retirent de ça la pire des leçons que tu peux retenir. Je ne ferai plus jamais ça, moi, m'investir dans la formation de disciples. On ne me prendra plus à essayer de conseiller quelqu'un puis de l'aider. Parce que c'est comme ça que ça se retourne. La pire des leçons que tu peux retenir. Parce qu'à ce moment-là, tu renonces à être un modèle. Tu renonces à cette idée que l'Esprit de Christ qui habite en toi fait de toi une personne inspirante pour la foi. Je t'invite à penser à ça. Et je termine avec quelque chose de précieux dans le passage, l'intitulé « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Dieu est en train d'enseigner son peuple à nourrir sa foi tous les jours. Dieu est en train de dire, je vous nourris avec la manne, ça prend soin de votre corps. Mais il y a une leçon beaucoup plus grande que je vous apporte chaque fois que je vous nourris avec la manne. C'est une leçon spirituelle. Quand vous allez arriver dans des épreuves, parce que vous vous êtes nourri de la manne et que vous aurez appris que c'est une nourriture spirituelle aussi qui vient fortifier votre foi, qui vous montre au quotidien les provisions de Dieu. Quand viennent les épreuves, tu es fort de cette foi-là. Dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul nous dit que ce qui se passe ici pour Israël, c'est pour notre instruction à nous. En fait, Paul va plus loin, on va lire le passage dans un instant, mais il nous dit que Christ est ce rocher qui les abreuvait. Jésus-Christ lui-même a dit qu'il est ce pain qui nourrit. Exode 17:6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple le boira. C'est vraiment intéressant. Moïse prend panique. Puis là, Dieu dit, je présume que c'est la nuée, d'accord? On n'a pas les détails. Mais il dit, le rocher que tu vas frapper, là, je vais me tenir devant toi sur le rocher. Et donc, on présume que c'est la nuée qui s'est déplacée puis qui est allée là pour dire, je suis vraiment avec toi. Maintenant, écoutez ce passage dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, « Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, dans Exode, et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans le sens qu'ils ont suivi Moïse par la foi, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, parce qu'au-delà de cet aliment physique, Dieu est en train de nourrir leur foi, de les instruire dans la foi, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » En théologie, lorsqu'on parle des apparitions de Dieu dans l'Ancien Testament, on appelle ça des théophanies. C'est lorsque Dieu apparaît. Et plusieurs commentateurs, je pense à juste titre, se disent chaque fois que Dieu apparaît dans l'Ancien Testament, puisque Dieu le Père est invisible et que Dieu le Fils est la seule personne visible de la Sainte Trinité, c'était Christ qui apparaissait. Et Paul nous dit que alors qu'ils apprenaient à s'abreuver quotidiennement de ce que Dieu leur donnait, Christ était présent lui-même. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Jésus dit ailleurs dans Jean 4:14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Dans Jean 7:37, c'est encore Jésus qui parle et dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » L'apôtre Paul dit à Timothée, son protégé, dans 1 Timothée 4:12, « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Je m'excuse, c'est une autre référence. « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Voyez-vous, le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont dans le désert, doit apprendre à tous les jours à venir nourrir sa foi, à venir alimenter sa foi. Et ce qu'ils vivent physiquement, les miracles qu'ils voient Dieu faire et les moments d'épreuve, sont là pour nourrir leur foi, pour instruire leur foi. Tant et si bien que lorsqu'on arrive à la fin de ce chapitre-là, dans Exode 17, versets 14 et 15, on lit, « L'Éternel dit à Moïse, après avoir eu la victoire contre Amalek, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. L'Éternel, ma bannière. Il y avait ce principe dans l'Ancien Testament qui revenait constamment. Puis là, on ne sait pas, est-ce que Dieu est en train de dire à Moïse, tu vas écrire le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Grande question, je lisais les commentaires. Il lui dit d'écrire dans un livre. Et on pense vraiment que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Est-ce que j'ai ici un indice très clair? Vas-y, écris dans le livre. Mais ce qui est clair, c'est le principe qui est derrière. Dieu dit, tu dois apprendre à te souvenir de ce que je fais. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Tu dois apprendre à te souvenir de ce que je fais. Moïse va monter là un autel, il va offrir un sacrifice, ces autels demeuraient en place. Et donc Israël, lorsque des Juifs voyageaient, ils pouvaient voir ces autels, c'était mis par écrit. Quand tu traverses des difficultés dans ton quotidien, tu es appelé à te rappeler de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et c'est pour ça que je dis ce matin, ce passage-là nous appelle à nourrir notre foi à tous les jours de Jésus-Christ. Ce rocher qui les nourrissait, c'était Christ. Et pourtant, ils ne connaissaient rien de Jésus-Christ comparé à toi et moi. Amen. Je veux dire, on a tout le Nouveau Testament qui nous aide à comprendre les prophéties de l'Ancien Testament. Ce n'est pas abstrait. Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Il s'est incarné. Il est venu marcher parmi les hommes. Il a payé pour que moi, je sois en paix avec Dieu de sa vie, de son sang. Ça n'a rien d'abstrait. C'est absolument concret. Mais je dois apprendre à retourner tous les jours à Jésus-Christ pour nourrir ma foi en lui par la prière, par la lecture, par la méditation de sa parole. Je veux retourner quotidiennement quand je me réveille le matin, que la première parole sur mes lèvres soit « Seigneur, je viens à toi pour nourrir ma foi de toi, Jésus-Christ. » Et puis, je veux apprendre à observer, à retenir ce que Dieu fait pour moi. Concrètement, très concrètement, si tu es chrétien comme moi, Christ est mort pour toi sur la croix. Il n'y a jamais rien qui va égaler ça dans tout ce que Dieu va faire pour toi. Dans toute l'éternité, il n'y aura jamais rien d'aussi beau, d'aussi grand, d'aussi merveilleux. Parce que c'est ça qui rend absolument tout possible. Mais j'aimerais ça vous demander de faire un effort de mémoire tout de suite. Là. Si vous avez besoin, fermez les yeux et pensez à une autre chose que Dieu a fait pour vous au cours des dernières années. Pas les épreuves, les grâces. Est-ce que vous vous rappelez d'une chose qui va rester indélébile dans votre mémoire jusqu'à votre mort de ce que Dieu a fait? Ça, c'est le devoir de souvenir. On vient de fêter le jour du souvenir vendredi. Parce qu'on veut se rappeler des vies qui ont été données pour que nous vivions dans un pays libre. Et les chrétiens ont un devoir de souvenir tous les jours. Souviens-toi de Jésus-Christ. Viens nourrir ta foi tous les jours à Jésus-Christ. Tourne-toi vers lui à ta première pensée du matin. Va dans la prière, ouvre les Écritures, réécoute l'exposé biblique de la semaine 100 fois si tu veux sur YouTube. Viens nourrir ta foi. Parce que lorsqu'il arrive des épreuves au quotidien, on est tenté de croire que notre foi est trop faible. C'est que notre foi est trop immature en réalité. Ce n'est pas que je doute que Dieu est fidèle et que Dieu est bon. C'est que l'épreuve qu'il place devant moi ne me plaît pas. Et plutôt que de me tourner vers lui pour dire « Seigneur, accorde-moi la force », j'entre dans le doute et souvent dans l'ingratitude. Et je me mets à murmurer, à chialer en bon québécois. Et si Dieu a placé des gens autour de toi, mais si tu es chrétien, il y en a placé. Tu es appelé à être un modèle pour une inspiration, à t'investir dans leur vie. Et il va y avoir des moments où les choses ne se passeront pas bien dans leur vie. Et ça se peut qu'ils t'en adressent le reproche, ça se peut qu'ils soient incrédules, ça se peut qu'ils doutent de Dieu. Ne ramène pas ça à toi. C'est leur épreuve. Ton épreuve à toi, c'est de garder la foi, de les instruire dans la foi. Et pour ça, souviens-toi de Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, on est assemblés en Église parce qu'on veut se souvenir de toi par nos chants de louange, par notre adoration, par nos prières, par le simple fait de se réunir ensemble physiquement, de communier ensemble de notre foi en toi, Seigneur. Nous voulons nous souvenir, Seigneur. Ce matin, nous sommes en train de nourrir notre foi, littéralement, en toi, Jésus. Seigneur, je te prie de venir fortifier les frères et sœurs ici ce matin qui avaient le cœur plutôt porté par le murmure, le chialage. Je te prie, Seigneur, de venir au secours de ceux qui ont appris peut-être cette semaine la pire mauvaise nouvelle de l'année. Ces combats-là, Seigneur, c'est autre chose. Entoure-les. Entoure-les, Seigneur, de tes enfants. Entoure-les des prières des saints. Entoure-les, Seigneur, de l'Église qui vient prendre soin d'eux. Viens, Seigneur, fortifier leur âme par ton Esprit Saint. Viens les aider à trouver un repos là où seul se trouve le véritable repos. C'est en toi, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ceux qui parmi nous ne te connaissent pas encore et qui disent « Oui, je doute parce que je ne possède pas cette foi que toi tu as. » Seigneur, viens ouvrir les yeux de leur cœur afin que la foi en toi ne soit plus quelque chose de théorique, mais que ce soit une douce mélodie qui les porte dans la louange, Seigneur. Reçois nos louanges ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.